Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour Talk Show après cette interruption estivale. Et j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Une rentrée sous le signe d'un très beau livre, celui de Cécile Chabot. Ça s'appelle Indigne et c'est un roman chez Écriture. Et comme on fait bien les choses, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Cécile Chabot. Bonjour.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg. Alors juste avant, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux, trois mots?
Oui, bah écoutez, je suis professeure de lettres dans un collège. Je fais ma rentrée demain. Mmh. Et je suis aussi, enfin, je pense ça y est, avoir la légitimité de dire que je suis un auteur.
Vous pouvez.
J'ai écrit un premier, alors c'était plutôt un témoignage de société, puisque j'ai écrit un livre sur mon métier avec des petites anecdotes sur mon métier, sur tout ce qui se passe dans mes classes. Et l'année dernière, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelait Rachild, homme de lettres, donc sur une romancière de la belle époque méconnue, et que j'exhumais de l'oubli. Et puis cette année, je sors l'histoire d'un personnage assez énigmatique, un homme de ma famille, Georges Despeau.
On va en parler.
On va en parler.
Alors, voilà. Moi, ma première question, c'est tout d'abord, dès l'entrée du livre, il y a écrit que c'est un roman. Or, on a l'impression que c'est plus autobiographique. Est-ce qu'on se trompe? Où s'arrête le réel et où commence la romance dans ce livre?
Alors c'est évidemment Georges Despeau a existé, c'est une histoire vraie. C'est un roman parce que je me suis quand même permis quelques libertés.
À quel moment du livre? C'est-à-dire au niveau par exemple de l'histoire entre David et Rebecca qui sont deux personnages, mais ce qui s'est passé dans les camps, on va en parler. C'est vrai, non, a priori?
Alors il y a trois trames en fait. Il y a la trame du procès d'épuration qui se passe juste après la guerre, la trame qui se passe dans les camps, majoritairement donc à Buchenwald, et puis la trame actuelle avec ces deux personnages, David et Rebecca. Donc David qui existe, Rebecca en revanche n'existe pas.
D'accord.
Mais il était important pour moi qu'il y ait un couple qui se déchire, parce que justement il se déchire à propos de la personnalité de Georges qui a été un personnage double pendant la guerre, à la fois jugé pour collaboration mais peut-être résistant, puisqu'il s'est retrouvé déporté à Auschwitz puis à Buchenwald.
Alors Georges Despeau, si on essaie de faire un peu le pitch comme on dit du livre, ça commence par la découverte de David à la mort de son père Samuel, qui découvre en fait des images, des dessins qui semblent évidemment représenter des actes dans les camps de Buchenwald. Et puis ça l'intrigue et il voit que tous les dessins sont signés par Georges Despeau, quelqu'un qu'il connaît bien, qui est un ami de son père décédé, et c'est un personnage qui est très important pour Samuel, le père de David. Il lui doit la vie, il dit souvent, il est invité permanent chez la famille de David, il est allé voir plusieurs fois, et ce personnage-là finalement a sauvé la vie de Samuel, le père de David, et on découvre un peu son histoire. Il a commencé comme résistant, comme collabo, travaillé pour l'assaut,
le journal de voilà. Baptiste, absolument.
Voilà, et il est assez acerbe sur les Juifs et très antisémite. C'est son travail ou c'est ce qu'il pense au départ?
Alors, il est avéré que Georges Despeau a écrit des articles. Voilà. Il n'a pas dénoncé, il n'a pas arrêté de gens, mais oui, il a écrit des articles collaborationnistes. Donc ça, le lecteur le sait d'entrée. En revanche, plus on avance, plus on découvre Georges Despeau, enfin une facette peut-être un peu plus attachante. humaine de Georges, puisqu'effectivement, il a sauvé le père de David dans les camps, ce qui fait d'ailleurs que David, comment dire, est très, lui aussi, enfin, ne veut pas croire. Il ne veut pas croire dans cette collaboration. Il veut croire que c'est que la guerre qui l'a poussé à aller dans le camp de la traîtrise. Mais lui, évidemment, est influencé par le fait que Georges a sauvé son père. En revanche, effectivement, Rebecca, elle n'a pas cette tolérance, forcément.
Bah alors, la question que je vous ai posée au départ, est-ce que c'était uniquement, entre guillemets, alimentaire pour faire vivre sa famille en temps de guerre, ou est-ce que ses idées au départ étaient antisémites et pro-fascistes?
Ben c'est ça, en fait, c'est la question que pose le livre, en fait. C'est, ouais, en fait, c'est l'histoire d'un procès, et c'est un procès qui dit ne jugez pas, qui essaie de comprendre. Tout ça, c'est écrit dans une démarche humaniste et mémorielle, et ça parle des collabos, d'une frange de collabos qui ont peut-être agi pour nourrir leurs enfants, pour être tranquilles, ou parce qu'ils avaient peur, parce que voilà, c'est vrai que c'est facile pour nous de juger à l'aune du 21e siècle, mais je ne sais pas ce qu'on aurait fait, on ne sait pas, personne ne sait ce qu'il aurait fait en temps de guerre. Donc c'est une question que je pose, voilà. Mais je ne donne aucune réponse, je laisse un point d'interrogation, toutes les portes ouvertes selon les sensibilités des lecteurs.
Fait que Georges Despaux est de votre famille, ça vous a fait changer les choses, non ?
Non, pas du tout, parce que bon, moi je l'ai pas connu, personne ne m'en a jamais parlé, donc peut-être que si ma grand-mère me parlait beaucoup des membres de notre famille, elle ne m'a jamais parlé de lui, c'était son cousin, donc évidemment je pense que le sentiment qui prévalait, c'était la honte. Le monsieur donc que je garde anonyme, dont le père a été sauvé par Despaux, lui au contraire, il idolâtre Despaux, bien sûr, et on peut le comprendre. Voilà, moi je suis l'entre-deux, si vous voulez, avec mon roman, j'essaie de donner tous les éléments, et puis après à chacun de se faire son avis. C'est vrai que à travailler sur Georges Despaux, peut-être que je m'y suis un peu attachée, et à vrai dire, je me suis surtout attachée au dessin qu'il a laissé, parce que ses dessins sont bouleversants.
C'est des vrais dessins, par contre.
Comment ?
C'est des dessins qui existent.
Ah oui, ces dessins existent. Mon éditeur...
Il y en a quelques-uns.
Voilà, mon éditeur Jean-Daniel Belfond a accepté d'en publier 5, ouais, en plus de la couverture. Il en existe d'autres. Il y en a deux qui sont exposés au mémorial de la Shoah en ce moment, une exposition sur la musique dans les camps de concentration. Ce sont des dessins qui existent, et c'est vrai qu'ils sont bouleversants. Et pour moi qui travaille énormément sur la Shoah, notamment avec Chose de les voir, oui, je reconnais.
À l'abri de l'oubli, gravé dans ma mémoire, planté dans mon esprit, ces visages innocents, aux yeux effarouchés, hommes, femmes et enfants, ces pantins tatoués. Une armée de barbares sombre dans la folie, dans les camps de la mort, ils ont tout orchestré, et sous les miradors, les violons ont grincé. 6 millions d'âmes crient, 6 millions d'âmes prient, elles emplissent l'univers leur cri, leur prière, leur écho infini fait le tour de la terre. témoin de l'infamie, des âmes et des guerres. 6 millions d'âmes crient, 6 millions d'âmes crient, elles emplissent l'univers de leur fidèle prière, leur écho infini fait le tour de la terre. Souffrance, schéma Israël, dans le ciel sans étoile, le silence du néant, Dieu se tait et se voile, dans ce buisson ardent, au-delà du hasard, le mystère de la vie, des nuits et des brouillards. A surgi un pays, l'étoile jaune du mépris s'est vengée des bourreaux. Elle habite aujourd'hui le plus beau des drapeaux.
En vertu du droit naturel et historique du peuple juif, et conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël.
6 millions d'âmes crient, 6 millions d'âmes crient, elles s'emplissent l'univers de leur fidèle prière.
Alors, Cécile Chabot, Indigne, aux éditions de l'écriture. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est quand vous parlez des camps, ce qui s'y passe est horrible et pourtant, vous n'y mettez pas de pathos, vous n'y mettez pas trop de sentiments. C'était un choix de ne pas aller dans le trash complètement?
Écoutez, j'ai essayé, moi j'ai toujours une démarche assez naturaliste, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée sur les camps. L'humanité, elle passe, je pense, par la description et par les interactions qu'il y a entre les prisonniers, les personnages. Mmh. J'ai quand même parfois notifié certaines atrocités qui pouvaient s'y passer. Maintenant, il faut aussi doser, quoi. Je pense que pour que ça touche, faut pas. Enfin, je sais pas. J'ai essayé de faire quelque chose de. Ouais, je voulais que l'humanité passe par les personnages. Mmh. Voilà.
Et c'est réussi. Quand on lit le livre, en fait, c'est l'impression que j'ai eue au départ, c'est que dès qu'on a pris le pli, on va dire, on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie de savoir ce qui se passe après. C'est un peu un livre suspense. C'est là aussi une volonté de votre part.
Écoutez, en fait, j'ai écrit ce livre un petit peu dans le désordre, parce qu'il y a trois trames. En fait, j'ai commencé par décrire tout ce qui se passait dans les camps.
Ouais.
Que c'était vraiment, je vous dis, je suis vraiment dans la démarche mémorielle et j'avais envie de travailler là-dessus. Et puis finalement, je me suis aperçue qu'il y avait quand même un gros dossier d'instruction quant à l'affaire de la collaboration. Donc je me suis dit, à la limite, très bien, comme ça, il y aura deux trames. Et puis, je me suis dit non, il faut que
il y a une intrigue.
Oui et non, et puis il faut que quelqu'un ait un jugement actuel aussi. Il faut qu'une catharsis puisse se faire par le biais de quelqu'un qui regarde ça avec ses yeux d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que David était là, il existait, mais j'avais envie que Rebecca existe aussi et qu'elle soit dans le conflit avec David, parce que David, c'est celui qui pardonne, parce qu'il est influencé par son histoire, mais Rebecca, elle est la voix de ceux qui ne pardonnent pas.
En même temps, David connaît Georges Desplots alors que Rebecca ne le connaît pas. C'est aussi...
Oui, mais enfin, bon, je pense que... Alors, évidemment, lui, il est influencé, mais elle, il a trempé dans la collaboration, donc il a trempé dans l'Holocauste.
Mais vous le dites dans le livre très bien que finalement, Rebecca a aussi son histoire, son passé, qui l'a peut-être aussi influencé à le traiter comme collabo.
Absolument. Oui, elle a perdu ses grands-parents, donc évidemment elle est influencée, mais bien sûr, de toute façon, notre jugement est influencé par ce qu'on a vécu, par ce qu'on voit, le jugement, c'est quelque chose de très 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 complexe, et dire simplement en 2023 ouais, c'était un collabo, c'était un salaud, c'est beaucoup trop facile, c'est pas du tout intéressant.
J'avais envie de vous poser une question un peu spéciale. Vous avez dans votre livre une partie du procès et après vous revenez sur Buchenwald et c'est comme ça jusqu'à la fin du livre, vous faites un sorte de flashback. Pourquoi ne pas avoir écrit d'un coup toute l'histoire de Buchenwald et après tout le procès, d'avoir comme ça fait des balancements, c'était plus lisible comme ça?
Parce que la chose qui était vraiment qui était avérée, c'est qu'il avait été collaborationniste. Ça, bon, il n'y avait rien à dire. Donc je l'annonce d'entrée. Mais ça me paraissait important progressivement de donner par petites touches ce qui s'était passé dans les camps pour que le lecteur peut-être s'adoucisse et dise effectivement. C'était un collabo, ça on le sait dès le départ, mais il a été humain, il a été très très beau, très brave dans sa traversée des camps. Voilà. Mais ça ne devait pas venir tout de suite. Il fallait
lire le livre.
il fallait que la chose se fasse doucement et par un cheminement de pensée.
Voilà. D'accord.
En fait, je veux qu'on essaie de comprendre. Voilà.
Comprendre.
Et après, on
quoi
se fait son jugement. Voilà, bien sûr.
Comprendre quoi?
Comprendre ce qu'on peut être en temps de guerre.
Hein? D'accord.
Beaucoup de journalistes ont dit est-ce que c'est un héros ou est-ce que c'est un salaud? Je pense que Georges Desplots n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste un homme qui a été pris dans la tourmente et qui a fait des mauvais choix. J'essaie de me mettre à sa place et je me dis que avec une jambe handicapée, parce qu'il avait la polio, avec cinq enfants, c'était peut-être pas si évident que ça.
Et c'est ce qui est dit par sa femme et par lui. Des fois, il dit qu'il était dégoûté par ce qu'il a écrit, mais qu'il n'avait pas d'autre choix que de le faire.
Ça, évidemment, je l'ai inventé pour mettre un point d'interrogation. Parce
d'accord.
Que, voilà, on ne sait pas.
Et voilà. Vous avez envie de savoir?
Ah, évidemment, j'aurais adoré rencontrer Georges Despeau, évidemment. J'aurais adoré le rencontrer pour pouvoir avoir des réponses à mes questions. Là, je l'ai juste décrit comme un homme très imparfait et je pense que de toute façon, c'est en disant ça, je ne suis pas trop loin de la vérité parce qu'on est tous très imparfaits.
En tout cas, il a donc été dénoncé de la milice, donc il s'est retrouvé au camp de Buchenwald et malgré tout ce qui s'y passe, il garde un semblant d'humanité. Il a l'air très apprécié de ses co-détenus. C'est ça la duplicité de Georges Despeau.
Écoutez, je ne sais pas. Enfin, il avait en tout cas de la correspondance qui reste à son propos. C'est vraiment quelqu'un qui savait énormément s'adapter. Donc je pense qu'il a su être apprécié des gens de la milice. Il a su se faire apprécier de ses compagnons de captivité. Je pense même, mais ça c'est vraiment, c'est moi, hein, mais je pense qu'il a dû être apprécié par certains gardiens du bloc 55, parce qu'il est quand même resté un an là-bas, avec sa jambe malade. Je pense qu'il a dû quand même magouiller pour arriver à survivre. C'était vraiment un des blocs les plus abominables de Buchenwald.
Mais il était très intelligent, dit-on, enfin, dans votre livre. Il avait l'air intelligent, il avait beaucoup de qualité à son actif.
Oui.
Par contre, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a fait avant la guerre. On dit qu'il a travaillé avec les créateurs du cinéma, les frères Lumière.
Oui,
il a vendu des choses. Enfin, c'était quoi son parcours, lui, avant la guerre?
Écoutez, effectivement, il a été horticulteur, il a travaillé pour les frères Lumière, mais avant ça, tout est très vague. Hein,
ouais.
Voilà, il a effectivement, c'est dit à un moment durant le procès, il a fait une espèce de trafic d'appareils photo, mais pour se faire valoir, il a dit que c'était des armes. Est-ce que c'est ça qui l'a conduit à être déporté? Il y a beaucoup de zones d'ombre en fait dans le dossier d'instruction. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, il y a une espèce de petit papier qui dit écoutez, il est allé à Auschwitz, donc il a 5 enfants. Laissez-le tranquille, quoi. Donc, Bon, je révèle pas la fin du...
Non, surtout pas.
Non, surtout... je ne dis rien.
Mais, on a été très vague pendant l'interview, justement, pour pousser les gens à acheter des livres. Je rappelle, Indigne, Cécile Chabot, aux éditions L'Écriture. Il faut vraiment le dire, ces livres, parce qu'on passe un très bon moment, même si c'est un peu l'horreur de temps en temps. Combien de temps pour écrire le livre?
Écoutez, je l'ai écrit en plusieurs fois. Je sais pas, j'ai dû l'écrire en peut-être 3 mois.
Ah, quand même.
Ouais. Voilà.
D'accord. Quand on lit un livre comme ça, est-ce que vous avez appris des choses que vous ne connaissiez pas?
Est-ce qu'il y a des... Évidemment.
Non, mais oui.
Ouais, oui. Ah oui, oui. Parce que
malgré votre travail et vos connaissances avant l'écriture du livre.
Alors là, vraiment, quand j'ai écrit un livre et j'avais fait la même chose pour Rachid d'Homme de Lettres, je me documente. Je ne vais pas dire de bêtises. Hein, donc là, il fallait. Alors là, vraiment, Buchenwald, et Auschwitz aussi, mais il y passe moins de temps. Donc, mais Buchenwald, j'ai étudié de fond en comble, si j'ose dire.
Vous êtes allé là-bas?
Non, je n'y suis pas allée. Mais bon, de toute façon, moi, je voulais Buchenwald au moment de la guerre. Donc, je pense que c'est assez aseptisé maintenant. Mais ouais. Non, je n'y suis pas allée. Donc, ça n'a été qu'un travail encyclopédique, je dirais. Mais je me suis aussi documentée sur les Français durant la France occupée, parce que je voulais essayer de voir quel pouvait être le sentiment des gens, l'ambiance, l'atmosphère de cette France. C'est difficile, c'est très difficile de se faire une idée.
Qu'est-ce que vous retenez après votre écriture? Il y a un sentiment qui ressort de ce livre?
Écoutez, ça me conforte dans l'idée que ce sont les... les petites histoires dans la grande histoire qui sont peut-être les plus importantes et qui font le plus avancer les choses parce que l'itinéraire de Georges Despot, je le trouve assez édifiant.
Voilà. Ouais. Alors, pour que les gens aillent acheter votre livre, c'est ça l'intéressant, qu'est-ce que vous leur diriez pour les pousser à aller à la librairie et acheter le livre Indigne?
Bah, peut-être que c'est le portrait de tout le monde. C'est un peu nous. Je saurais pas quoi dire à vrai dire parce que je sais pas trop me vendre.
C'est un très bon livre. Ça, c'est déjà un bon élément. Et franchement, c'est une très belle histoire en même temps de notre histoire, tout simplement. De l'histoire d'un Français qui a dû faire des choses et qui se révèle pour moi être quelqu'un d'intéressant. Cécile Chabot, projet, prochain livre?
Ah oui, bien sûr. Je peux pas trop.
Allez, un petit scoop pour la radio.
Alors écoutez, j'ai proposé le manuscrit à mon éditeur. C'est d'être encore une femme que j'exhume de l'oubli parce que mon combat de féministe, c'est pas d'aller râler et de dire que l'homme est apocalyptique pour la femme, mais c'est d'exhumer des femmes de l'oubli, des femmes inspirantes. Donc je l'avais fait avec Rachilde et là j'ai une autre femme qui est absolument incroyable.
Qui est ?
Qui mérite vraiment d'être... Ah ben non, je ne vous le dis pas.
On aura essayé.
Je vais vous dire que ça se passe pendant la Première Guerre.
Voilà. Alors
on change encore d'époque.
D'accord. Et votre époque de prédilection, c'est quoi ? C'est la Deuxième Guerre mondiale ou la Première ?
Non, mon époque de prédilection, celle pour qui j'ai un attachement obsessionnel, c'est la Belle Époque, enfin le Second Empire, la Belle Époque. J'adore cette époque, mais il est vrai que je travaille énormément, je vous dis, sur la Shoah, parce que c'est un thème qui me paraît indispensable, surtout de nos jours. Et voilà, j'ai fait beaucoup de projets mémoriels, la pose d'un pavé de mémoire, enfin plein de choses.
Et dernière question, anecdotique. Oui. Dans le livre, il y a quelques mots en hébreu. Vous êtes bilingue ou...
Non. j'ai beaucoup d'amis juifs. J'ai le nom de ma fille qui est aussi tatouée en hébreu sur mon bras. J'adore l'hébreu, mais ce sont des amis juifs qui m'ont fait la traduction.
D'accord.
Voilà, c'était...
C'est bien, ça donne un peu un côté très sympa au livre. Je rappelle le livre Indigne, signé Cécile Chabot. C'est aux éditions de l'Écriture. Ce roman est sorti, je crois, il y a quelques semaines. Donc, il est temps.
Une semaine,
toujours. Et donc, vous aurez le loisir de le trouver, à mon avis, en bonne place dans les librairies. J'ai vu que vous aviez une très bonne presse. Étonné?
Oui, il a été chroniqué dans Lire Magazine, il a été chroniqué par Valérie Expert. Enfin, ça, il commence à être chroniqué. Là, il a été chroniqué en Guadeloupe, en Alsace,
dans
le Nord. Voilà.
Voilà. Merci Cécile Chabot et je vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci pour cette interview et puis j'espère que la lecture de Indigne plaira à tous vos auditeurs.
Il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.